Radio Capi.
Le journal. Gisèle Cage à la présentation.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Sans plus tarder, voici les principaux titres qui font l'actualité. Beni Avido, plus de 5000 habitants privés de soins depuis 2 ans à cause de l'insécurité. La fermeture du poste de santé local oblige les habitants à parcourir de longues distances pour accéder aux soins, mettant leur santé en danger. Lubumbashi au Katanga, des tirs nourris secouent le quartier industriel de Kampimba. Le premier rapport font état de nombreuses victimes. RDC, 1 million de donneurs de sang nécessaires pour sauver des vies, selon Dr Liliane Bouiza, directrice du Centre National des Transfusions Sanguines. Actuellement, seulement 36% des dons sont bénévoles, loin de 80% recommandés par l'OMS. Dr Liliane Bouiza est l'invitée de ce journal pour parler de cette problématique. C'est tout pour les titres. Direction le territoire de Beni pour ouvrir ce journal. Plus de 5000 habitants de la localité des Vido vivent sans accès aux soins de santé depuis maintenant 2 ans en cause l'insécurité persistante dans la région qui a entraîné la fermeture du poste de santé local. Faute d'infrastructures médicales fonctionnelles, les habitants sont contraints de parcourir de longues distances pour se faire soigner, mettant en péril leur santé, notamment en cas d'urgence. Marc Marofimbo nous en dit davantage.
Située à la limite entre le territoire de Beni et celui du territoire de Rumo en Ituri, la localité de Vido ne dispose d'aucune structure sanitaire opérationnelle. Son unique poste de santé a dû fermer ses portes il y a 2 ans à la suite de l'insécurité dans cette zone, mais aussi par manque de personnel soignant. Du coup, les quelques 5000 habitants de cette localité sont contraints de se rendre soit à Kainama, dans le territoire de Beni, à plus de 15 km pour se faire soigner, soit à Tchabi, dans le territoire de Rumo voisin, ou encore à Boga, à plus ou moins 20 km pour les cas graves et les femmes enceintes. Contacté à ce sujet, le chargé de supervision épidémiologique dans la zone de santé d'Oicha confirme cette situation et parle d'un problème de sécurité. Toutefois, Archip Kusa indique que des démarches sont à cours pour que le poste de santé de Vido soit appuyé momentanément par les centres de santé de Tchabi, mais aussi les centres de santé de Kainama. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Restons dans le même registre et dans la même région à Kainama. Le centre de santé de Kainama, situé à une 50 kilomètres au nord-est de la ville de Beni, traverse une crise majeure depuis plus de 6 mois en cause un manque criant de médicaments, l'absence de soutien gouvernemental et l'incapacité de la population locale à couvrir le frais de soins en raison de sa grande vulnérabilité économique. L'infirmier titulaire de cette structure sanitaire tire la sonnette d'alarme. Il appelle les autorités congolaises ainsi que les organisations humanitaires à intervenir de toute urgence pour éviter une détérioration encore plus grave de la situation sanitaire dans cette zone enclavée. Marc Marofimbo s'est rendu sur place pour faire le point sur les conditions de fonctionnement du centre et les appels à l'aide lancés par le personnel médical.
L'infirmier titulaire du centre de santé de Kainama parle des véritables calvaires que vit sa structure médicale. Ici, plusieurs cas de malaria, de diarrhée et de paludisme sont enregistrés, mais faute de médicaments, la prise en charge des malades est insuffisante. Les femmes enceintes fréquentent de longues distances jusqu'à Tchabi et Boga, dans le territoire du Rumu voisin, où la gratuité de la maternité est opérationnelle. La population de l'aire de santé de Kainama, constituée majoritairement des retournés, peine à trouver des moyens pour se faire soigner. Denis Mumereti Bassima, l'infirmier titulaire de cette structure sanitaire, l'unique dans la région, lance un cri d'alarme au gouvernement ainsi qu'aux organisations humanitaires.
Le centre de santé de Kainama fonctionne difficilement parce que nous manquons l'appui des gouvernements ainsi que de l'ONG pour venir nous appuyer en médicaments et à d'autres produits qui veulent quand même nous permettre à bien fonctionner. D'abord de nous doter d'abord la gratuité de maternité sans cela de notre besoin urgent et aussi de nous doter de médicaments de première nécessité comme le produit qui peut nous aider à soigner le paludisme et diarrhée ainsi que pneumonie.
Denis Mumbere précise que le dernier appui en médicaments et matelas à cette structure sanitaire par l'église Ushindi Ministry en provenance de la ville de Bouna en Ituri remonte à 1 année. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Abordons à présent la question de la sécurité à Lubumbashi. Mardi soir, des tirs nourris ont retenti dans le quartier industriel situé dans la commune de Kampemba. L'incident d'une rare intensité a causé plusieurs pertes en vies humaines selon les premières informations recueillies sur place. La fusillade a sémé la panique dans le quartier environnant, poussant de nombreux habitants à fuir ou à se barricader chez eux. L'intervention rapide des forces de sécurité et de défense a permis de rétablir l'ordre, mais l'origine exacte de tir reste encore à déterminer. Jean Gandou nous livre les détails de cette soirée dramatique et les premières réactions des autorités locales.
Nos sources renseignent qu'il s'agit de bandits interceptés non loin du poste avancé des militaires dans les encablures du dépôt d'armes situé au quartier industriel dans la commune de Kampemba. Juste après, il s'en est suivi un échange de tirs nourris. Le bilan fait état de 2 morts, dont un militaire et 1 civil. On signale également 2 blessés, parmi lesquels un militaire qui a reçu une balle dans la tête et 1 civil touché à l'épaule gauche. Les 2 sont admis dans un hôpital de la place. D'après nos sources, les premiers éléments de l'enquête révèlent que ces bandits sont venus les uns de Kakanda et les autres de Fungurume dans la province du Lualaba. Ils étaient chez une dame pour des rites appelés Bizaba avant d'aller opérer. D'après ces rites, ils ne pouvaient pas être atteints par des balles en cas d'attaque. Leur objectif était de dévaliser une banque dont le nom ne nous a pas été précisé. Tous étaient à bord d'une voiture de marque Toyota arrière de couleur noire qu'ils ont abandonnée sur place. Leur nombre et le commanditaire de leur mission pourraient être connus à l'issue de l'enquête, renseigne un officiel contacté. Et nous apprenons qu'il y aurait aussi d'autres arrestations toujours en rapport avec ce dossier.
Ituri, les forces armées de la RDC ont infligé un revers significatif au groupe armé Convention pour la Révolution Populaire, CRP, dirigé par Thomas Lubanga, lors d'une opération militaire menée mardi dans le village de Nogo, territoire de Djougou. 5 miliciens ont été neutralisés et 5 autres capturés. Plusieurs armes et munitions ont également été récupérées. Selon le porte-parole de l'armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, ces éléments rebelles sont tombés dans une embuscade tendue par les soldats FRDC en patrouille des combats dans la zone. Il s'est exprimé au micro de Martial Kizabiamungu.
Les commandants des opérations et gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, lieutenant général Luboyankasha Madjoni, salue le professionnalisme et le courage de ces hommes et les encourage à poursuivre sans relâche ces ennemis de la paix afin de le mettre définitivement hors d'état de nuire. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo, en Ituri, sous les commandements du gouverneur militaire, lancent un appel pressant à tous les éléments de CRP, encore avec de prétentions de déstabiliser la région lakiste, à se rendre sans condition. À défaut, il s'expose à une riposte ferme des forces loyalistes. Le temps du pardon reste encore ouvert, mais la tolérance zéro envers les ennemis de la paix demeure de rigueur.
Restons à Ituri. La centrale hydroélectrique de Boudana, située à 12 km de la ville de Bounia, a vu sa capacité de production passer de 3,5 à 7 MW. Cette augmentation significative est le fruit de l'installation d'une 2e turbine inaugurée lundi par l'entreprise Greentech Energy, partenaire technique de la société minière Kilomoto. Cette avancée marque une étape importante dans le renforcement de l'approvisionnement en énergie électrique dans la région où le besoin en électricité sont en constante croissance. Grâce à cette nouvelle turbine, la centrale pourra desservir un plus grand nombre de foyers et d'installations industrielles, contribuant ainsi au développement socio-économique local. Jean-Claude Lokidile s'est rendu sur place pour une visite guidée des installations et nous propose un reportage complet sur les enjeux et les perspectives qu'offre cette modernisation.
La 2e turbine remise en service avait une puissance de 1,2 MW, ce qui ne permettait pas de couvrir les besoins en électricité des abonnés, affirme un technicien de l'entreprise Greentech Energy, ce qui a justifié des travaux de modernisation effectués sur cette machine devenue vétuste. À ce jour, les 2 turbines opérationnelles produisent un total de 7 MW. Dieudonné Moulimiloa est le responsable en Ituri de cette société.
Là où il y a l'électricité, il y a le développement, il y a l'eau, il y a la route. Et nous sommes en train de participer aussi au développement de la province. Sans courant, il n'y a pas de développement.
La mission de Green Tech Energy est de remettre en état la centrale hydroélectrique de Boudana afin d'assurer un approvisionnement fiable et durable de la région en électricité. Pour Lucien Mouliri, opérateur économique, l'Ituri a besoin d'énergie pour booster son développement.
On ne peut logiquement pas se développer s'il n'y a pas de l'électricité et de l'électricité qui convient.
La centrale hydroélectrique de Boudana, mise en service en 1940, est la principale source d'énergie pour la ville de Bounia, mais aussi pour d'autres agglomérations où, faute d'électricité, les populations recourent massivement aux panneaux solaires et groupes électrogènes. Bounia, Jean-Claude Loki, il est Radio Okapi.
Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. À Kinshasa, une cinquantaine de journalistes prennent part du 18 au 19 juin à un atelier axé sur la promotion de la cohésion nationale et la lutte contre la désinformation à l'ère du numérique, organisé par le secrétariat général à la communication et aux médias. Cette session de deux jours vise à renforcer les capacités des professionnels des médias afin qu'ils puissent fournir une information fiable et responsable au public. L'initiative bénéficie du soutien technique et financier de la MONUSCO et de l'UNESCO. Les précisions de Blaise Ndongala Mayanda.
Organisé à l'hôtel Memilingo, ces assises se proposent de faire des journalistes des véritables acteurs de paix et de la cohésion sociale. Le secrétaire général à la communication et médias encourage les journalistes à communiquer avec responsabilité pour renforcer l'unité et la paix à travers le pays. Il estime que les journalistes ne doivent pas avoir des couleurs politiques ni de parti pris pour préserver Cléophas Malaba.
Il faut que les journalistes sachent ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent mettre à la portée de la population. Je crois que avec leurs paroles, avec tout ce qu'ils peuvent dire, on aura moins de conflits, on aura moins de stigmatisation.
Pour sa part, Abibou Bangré, des affaires politiques de la MONUSCO, demande aux chevaliers de la plume et du micro de sélectionner leurs mots en se fiant aux sources fiables des informations. Elle les appelle également à contrôler toute information, quelle que soit sa source.
Et vous, chevalier de la plume, du micro et de la caméra, vous pouvez jouer un rôle majeur en sélectionnant avec soin chacun de vos mots et en privilégiant des intervenants constructifs. Face à la désinformation et à l'usage parfois nocif de l'intelligence artificielle, il devient crucial de systématiser les réflexes élémentaires, comme toujours se fier aux sources primaires d'information.
Des journalistes participant à cet atelier sont par ailleurs invités à diffuser des informations en langue nationale en vue de vulgariser la paix à travers les pays.
Goma, Nord Kivu, une cinquantaine d'élèves du secondaire ont été sensibilisés mardi sur les dangers de la désinformation et son impact sur les efforts de protection de l'enfant. Cette initiative portée par le Parlement d'enfants au Nord Kivu s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Appuyée par la MONUSCO à travers sa section protection de l'enfant, cette activité s'insère dans le projet plus large visant à renforcer la protection des enfants affectés par les conflits armés dans la région. Le président du Parlement d'enfants du Nord Kivu, Diego Amani Kadoukou, a souligné l'importance de cette sensibilisation dans un contexte où les fausses informations peuvent compromettre les actions humanitaires et le droit fondamental des enfants. Écoutons Diego Amani Kadoukou au micro de notre rédaction.
Aujourd'hui, nous avons pris comme sous-thème comment se protéger soi-même et lutter contre la désinformation, parce que les jeunes, eux aussi, doivent faire en sorte de ne plus être victimes de cette désinformation et ils doivent mettre en place des mécanismes qui vont les protéger justement de ne pas pouvoir tomber dans les pièges. La désinformation peut entraîner beaucoup de manipulations. Les enfants, en tombant face à une information, peuvent décider de l'interpréter comme justement l'auteur de la fausse information a pu le voir. Alors, le fait de manipuler les enfants est aussi une violation de leurs droits, parce que l'auteur peut décider d'abuser, d'exploiter économiquement ou physiquement parlant l'enfant. Et en cette situation de conflit, il est grand temps que nous puissions aussi poser un mot sur justement ce problème-là, parce qu'en temps de conflit, en temps de guerre, celui qui manipule l'information a un très grand pouvoir sur toute la communauté.
Kinshasa, la gestion de la transhumance au cœur des échanges mardi entre la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, et les autorités congolaises. Au cours de ces échanges, le président de la commission a exprimé ses préoccupations quant à l'évolution de la transhumance dans la sous-région, soulignant qu'elle est de plus en plus détournée à des fins criminelles, notamment pour le trafic d'armes. Face à cette situation préoccupante, Gilberto da Piedade a été reçu par le président Félix Tshisekedi, à qui il a présenté la démarche concertée de chefs d'État et de gouvernement de la CAC visant à encadrer et sécuriser cette pratique pastorale transfrontalière. Un reportage de Billy Van Lutumba.
La volonté des chefs d'État est d'organiser une réunion de haut niveau en RDC pour trouver une solution idoine à la situation de la transhumance en Afrique centrale. Gilberto da Piedade, Verissimo.
On a rencontré les différents ministères, environnement, justice, intérieur, intégration régionale. Les ministères qui sont liés à ce phénomène de la transhumance. On a les instructions de M. le Président pour continuer à travailler, pour tenir cette réunion en principe du 16 juillet au 19.
Convaincu de la nécessité d'organiser ces travaux en RDC, le président Félix Tshisekedi a insisté pour que se poursuivent les travaux préparatoires en vue d'une meilleure organisation. Précision avec Didier Manzenga, ministre de l'intégration régionale.
Ce système a été dénommé le Mororo. Il y a plus ou moins trois pays de l'Afrique centrale, la RDC, Centrafrique, Tchad plus le Cameroun. Et nous avions dit nous devrions associer aussi d'autres pays qui ne sont pas pays membres de la CAC.
À propos justement de cette transhumance en mission dans le territoire de Nyangara, dans la province du Haut-Ouélé, le commandant de la troisième zone de défense a appelé jeudi 12 juin les éleveurs Mororo à se cantonner dans la localité de Nambia en vue de leur identification. Le lieutenant général Pacifique Masunzu a lors de cette mission exhorté la population et plus particulièrement celle du territoire de Nyangara à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour assurer le succès de cette opération.
Actualité internationale.
Mardi, une nouvelle tragédie a frappé la bande de Gaza. Des dizaines de Palestiniens rassemblés près d'un centre de distribution d'aide humanitaire à Khan Younes ont été tués ou blessés alors qu'ils tentaient désespérément d'obtenir de la nourriture. Selon les autorités sanitaires locales, au moins 51 personnes ont perdu la vie et plus de 200 ont été blessés, dont plusieurs grièvement. Face à cette situation dramatique, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde indignation. C'est inacceptable, a déclaré son porte-parole adjoint Faranak lors d'un point de presse à New York. Depuis le Canada, où il participait au sommet du G7 à Kananaskis, Antonio Guterres a réitéré son appel à une enquête immédiate et indépendante afin de faire toute la lumière sur ces événements et d'en établir les responsabilités. Le chef de l'ONU a également rappelé que le besoin humanitaire à Gaza reste immense et largement insatisfait. Il a souligné qu'Israël a en vertu du droit international humanitaire, a l'obligation de faciliter l'acheminement de l'aide vers les civils dont le besoin. L'accès humanitaire à grande échelle doit être rétabli sans délai, a insisté M. Nak.
L'invité.
En RDC, environ 1 million de donneurs de sang pour sauver de vies, c'est l'estimation de besoin en donneurs de sang dont notre pays a besoin, affirme Dr Liliane Bouiza, directrice du Centre national de transfusion sanguine à l'occasion de la journée mondiale des donneurs du sang célébrée le 14 juin de chaque année. Pour en parler, nous recevons Dr Liliane Bouiza. Elle s'entretient avec Stanislas Diomi.
Docteur Liliane Bouiza, bonjour. Vous êtes directeur au Centre national des transfusions sanguines. Le 14 juin, le monde célèbre la journée mondiale du don de sang. Et quel est le thème retenu cette année pour notre pays?
Le 14 juin de chaque année, notre pays, à l'instar du reste du monde, célèbre la journée mondiale du don de sang. Un moment fort, un moment de reconnaissance, mais aussi un moment d'appel à la conscience nationale. Le thème choisi pour cette année, tous unis par le sang, donner son sang, c'est un acte de solidarité.
Dans chaque mouvement de sensibilisation de la campagne sur le don de sang, quels sont les objectifs que vous poursuivez?
En fait, notre objectif, c'est faire la promotion de dons bénévoles de sang. C'est d'apporter l'information à la population, à la communauté, sur l'importance de donner du sang. Nous n'avons pas assez de donneurs en République démocratique du Congo qui donne bénévolement du sang. Et raison pour laquelle nous nous lançons à faire des sensibilisations par-ci par-là avec comme objectif de récolter plus au maximum 200 à 250 poches de sang.
En République démocratique du Congo, docteur, le besoin en sang peut être évalué à combien de pourcents d'après vous?
Le besoin en sang en RDC est estimé environ à 1 million de dons de sang. Aujourd'hui, on arrive à collecter même 40% de ses besoins. C'est un problème sérieux que nous régorgeons au niveau de notre institution qui est appelée vraiment à répondre aux besoins. Il y a beaucoup de vies que nous sommes en train de perdre à cause de l'inaction de certains et nombreux ne sont pas sensibilisés sur ces gestes simples, nobles, mais qui sauvent de vies.
Et quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face par rapport aux dons de sang et que faites-vous pour y remédier?
La RDC fait face à des grands défis dans le domaine de la transfusion sanguine. On observe une faible culture de dons volontaires et réguliers. Ceci nous amène à dire que le nombre de donneurs réguliers demeure insuffisant pour faire face aux besoins en sang. Il y a un besoin accru d'investissement dans la sensibilisation aux dons bénévoles du sang, dans la formation et aussi dans l'équipement dans ces secteurs. On enregistre une couverture encore incomplète des formations sanitaires en produits sanguins sécurisés, de moyens logistiques et techniques à renforcer dans nos structures. Et pour faire face à cela, nous sommes en train de mener des plaidoyers auprès de bailleurs qui interviennent dans le secteur sanitaire, les ministères de la Santé et en train de mettre tout en œuvre pour assainir, voir comment appuyer les secteurs de la transfusion sanguine au nouveau pays. Un plan de revitalisation est en marche pour redynamiser les secteurs de la transfusion sanguine. Appuyer ces centres-là, et s'ils sont opérationnels correctement, nous allons vaincre ces défis.
Avez-vous un message à adresser à la population congolaise en rapport avec cette journée?
Aujourd'hui, je tiens à rendre un hommage appuyé aux donneurs de sang à travers tous les territoires nationaux. Grâce à votre générosité, des millions de vies ont été sauvées. Vous êtes les artisans silencieux de l'espoir. Vous êtes la preuve vivante que la solidarité peut s'exprimer par un simple geste, tendre le bras pour sauver un inconnu. Je voudrais aussi remercier les gouvernements, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, tous ceux qui s'engagent à nos côtés dans cette mission vitale. Mais il nous faut aller plus loin. En tant que Centre national de transfusion sanguine, nous renouvelons notre engagement à renforcer les collectes du sang dans les provinces, moderniser nos centres de transfusion, améliorer la traçabilité et la qualité du sang transfusé, former davantage de professionnels qualifiés et surtout mobiliser chaque citoyen congolais autour de la culture de dons volontaires et réguliers.
Docteur Liliane Bouiza, je rappelle que vous êtes directeur au Centre national de transfusion sanguine. Nous vous disons merci.
Notre invité, docteur Liliane Bouiza, s'est entretenu avec Stanislas Diumi autour des enjeux cruciaux liés à la disponibilité du sang en République démocratique du Congo. Au cours de cet échange, elle a mis en lumière les défis majeurs auxquels fait face le système de transfusion sanguine, notamment le manque de donneurs réguliers. C'est la fin de ce journal. Il vous a été présenté par Gisèle Cage, mise en onde par Mimi Kindou, sous la supervision de Pélé Kipelamondo. Merci pour votre fidélité et votre attention. Restez connectés à nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité en temps réel. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, prenez grand soin de vous et de vos proches.